L'homme reprend les études. Puisque le temps de vacances scolaires est terminé. Il reprend le cours de métaphysique apéritif. N'est-ce pas ? Il paraît qu'on doit discuter ce soir. Pour savoir s'il faut continuer cet horaire. Se réfugie dans le passé. Où philosophie sur le dos. Pour Aristote, les topics, c'était facile. Dès que pour nous, c'est pas commun. Depuis le commencement de la philosophie grecque, à peu près 800 ans avant Jésus-Christ, et puis 2000 ans après, et voir le problème relatif, comment il s'est posé. On a essayé de comprendre ça. Presque toujours, on voit comment Platon a posé tous les problèmes. Tous. C'est ça la chose merveilleuse de Platon. Il les a tous posés à côté. Ce qui est encore plus merveilleux. Il les a posés en nostalgie. Platon, c'est un grand, grand nostalgie. Énorme, énorme. La nostalgie du passé. Dans le temps passé, j'étais contemplatif. J'étais auprès des dieux. J'avais une âme qui n'était pas liée à mon corps. J'espère que vous avez déjà découvert ça. J'étais une âme qui était séparée du corps, qui vivait auprès des dieux. Phèdre, quand vous avez un peu le cafard, lisez le dialogue du Phèdre. Et rappelez-vous, vous étiez dans le temps, auprès des dieux, que vous contempliez. Mais maintenant, tristesse, je suis lié au corps. C'est terrible. Lié au corps, il y a le passé, le présent, le futur. Et c'est vrai, c'est ce qu'on découvre dès qu'on pense à notre corps. On fait partie d'un homme avec notre corps. Je comprends très bien la nostalgie de Platon. Nostalgie extraordinaire. Platon pose tous les problèmes. Mais il les pose toujours d'une façon intuitive. Platon, c'est le domaine de l'intuition. C'est merveilleux. Alors quand on n'a pas beaucoup d'intuition, on aime beaucoup Platon. C'est complémentaire. Platon, c'est un homme intuitif au possible. C'est une réserve de toutes les intuitions, de toute la philosophie occidentale. Heidegger le dit, que toute la philosophie occidentale n'est qu'une glose par rapport à Platon. Ce qui est un peu vrai. C'est le réservoir. Tout est là. Aristote, je crois qu'il a été fatigué de Platon. C'est fatigant, un homme qui a des intuitions tous les matins. Et qui reprend toujours tout. Chaque dialogue de Platon reprend tout. Aristote, qui vient auprès de Platon, tout jeune, et qui reste 20 ans avec Platon. Oui, ça s'est passé 20 ans à Saint-Jodard. Vous voyez, 20 ans à Saint-Jodard. Je dis pas que Saint-Jodard, c'est Platon. Mais, à l'école de Platon, au point de départ, devant Platon, devait être toujours un petit novice. Entre Aristote et Platon, il y a quand même une différence d'âge. Aristote, très vite, a vu la fragilité de Platon. Tout repose sur une intuition. Qui n'est pas juste.
Non, c'est la substance. On lui attribue tout. C'est le noyau. Le nom. Et puis, tout le reste est relatif au nom. Mais il y a des relatifs tout à fait particuliers. Il y a des relatifs qui ont une détermination. Pierre est intelligent. Intelligent est attribué à Pierre. Il est relatif à Pierre. Mais intelligent a quand même une certaine consistance. Et puis, il y a le relatif pur. Le relatif pur, c'est celui qui n'a pas de consistance en lui-même. Et vous joignez deux phrases. Pierre est intelligent. Et il est capable d'aimer. Et il est capable d'aimer. Il est aussi capable d'aimer. Vous ajoutez quelque chose. Un lien. Aristote a saisi que, de fait, toute notre vie intellectuelle était dans ces deux extrêmes, au point de vue de la signification. D'où l'intérêt très particulier du relatif. Lisez attentivement, ça vaut la peine. C'est un des lieux très très importants. Attentivement, le relatif dans les catégories. C'est assez facile à lire, c'est pas long. Mais c'est un lieu très important. Au point du texte, c'est un lieu très important. Et d'essayer de comprendre comment il y a eu dans ce relatif un moment où Aristote s'est mis à dire mais il y a quelque chose de très particulier au relatif. Et Aristote a précisé, ça vous l'avez retenu, c'est pas étonnant, que le relatif, c'est l'être le plus débile. Ça se retient très bien. L'être le plus débile. Un être débile, on sait ce que ça veut dire. C'est qu'il a besoin d'une canne. Le jour où on commence à vieillir et qu'on prend une canne, on devient un être débile. C'est la bonne canne qui vous soutient. Le relatif, c'est l'être le plus débile parce que c'est un être qui est parasite. Il se tient pas tout seul. Il a besoin de s'appuyer. Et pourtant, il est. Mais il est en s'appuyant. Il n'existe que comme ça. D'où cette espèce d'inquiétude. On voit très bien qu'il y a une inquiétude. Le relatif, mais est-ce que l'être existe en dehors de la pensée? Ou est-ce que l'être n'existe que dans la pensée? Et le relatif à ce site très intéressant, c'est qu'il m'oblige de voir qu'il y a deux manières de penser l'être. Et ça, je crois qu'Aristote l'a saisi. Il y a deux manières de penser l'être. De penser l'être en tant qu'il est, indépendamment de moi, et en tant qu'il n'existe que pour moi. Qui n'existe que dans ma connaissance. Je suis capable de fabriquer un monde. Il y a une relation réelle et il y a une relation de raison. Et ça, c'est unique à la relation. C'est quand même très curieux. Alors, je comprends très bien cette espèce d'inquiétude. Est-ce que c'est tout ce que je pense, est-ce que ça n'existe que dans ma pensée? Ou est-ce que c'est le réel? Vous voyez, face à Platon, Aristote revient au réalisme. Et dans le réalisme, Aristote reconnaît, oui, qu'il y a cette possibilité de construire tout un monde qui est le monde de la pensée. Et qui n'existe pas. Et ça, c'est la réflexion sur le relatif qui me met en présence de cela. La Aristote n'explicite pas, mais simplement, le relatif est un être très débile. Et donc, il y a toujours besoin d'un autre. Et cet autre, l'utilisation de la relation chez saint Thomas. La théologie de saint Thomas, c'est la théologie de la substance et de la relation. C'est pas étonnant, puisqu'au fond, le théologien, il regarde Dieu. Or, Dieu, c'est l'être premier, absolument simple, qui n'est que substance. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a absolument pas besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il est.
Ne peut s'expliquer.
Goliath. Vient au point de vue philosophique. Il faut comprendre ça. La substance, c'est quelque chose qui se tient en soi. Je ne peux pas saisir la transcendance de Dieu. Elle m'échappe complètement. Et par la relation, j'ai une petite fronde qui me permet de comprendre autant que je le peux ce que c'est que l'acte créateur de Dieu. Et par la relation, je peux pénétrer dans la simplicité absolue de Dieu et découvrir les trois. Saint Thomas est sûrement le théologien qui a saisi le mieux cet aspect extrême de la substance et du relatif. Cette mise en lumière de la relation a fait que progressivement, celui qui s'est mis à laïciser la pensée de saint Thomas a mis la relation à une place extraordinaire. Et au terme, on peut voir une philosophie qui n'est plus que la philosophie de la relation. Dans l'hégélianisme, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant, de plus intelligent? C'est la relation. La substance est volatilisée par la relation. Et on voit ça dans Hamelin, parce que c'est dit alors explicitement chez Hamelin. Il n'y a plus que le relatif. Oui, c'est ça qui est très intéressant au point de vue topique, au point de vue réflexion. C'est de voir que la philosophie oscille entre substance, relation. Mais ce qui est très difficile, c'est de maintenir les deux. Parce qu'on pourrait dire que vous avez une pensée alors qu'il ne regarde plus que la substance, Spinoza. Et une pensée qui ne regarde plus que le relatif, Hamelin. Et Hegel. Alors pourquoi ça? C'est parce que la substance me met en face du réalisme. Je suis en présence de quelque chose qui est antérieur à ma pensée. C'est ça le réalisme. C'est le respect du réel. Il y a quelque chose qui est avant ma pensée. Et je ne peux être que déterminé par ce réel. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la relation, c'est que je peux dire que c'est ma pensée qui enveloppe tout. Et que c'est ma pensée qui donne la signification à tout. Puisque la relation peut être une relation de raison. Et que la relation, je la saisis dans toute sa subtilité dans la relation. Et je vois alors, à ce moment-là, cette chose très curieuse, c'est que les mathématiques, c'est le domaine de la relation et du primat de la relation. Or, la pensée mathématique est antérieure génétiquement à la pensée philosophique. Elle est première, génétiquement. Les mathématiques sont nées avant la philosophie, dans notre monde occidental. Peut-être la différence entre l'Orient et l'Occident. Dans le monde occidental, la pensée mathématique est antérieure à la philosophie. Et que la philosophie, en quelque sorte, se meurt c'est pas légitime. Les mathématiques sont une connaissance spéculative qui a sa dignité. Et dans les mathématiques, la relation est première. Il n'y a pas de substance. Tout est relatif. Alors vous voyez, c'est curieux, parce que ça se ramène à ça, la pensée de Platon et d'Aristote. Pour Platon, les mathématiques sont une pensée médiatrice entre la physique et la dialectique. Pour Aristote, les mathématiques sont extrinsèques à la philosophie. Des sciences, les mathématiques ont repris un rôle de médiation par rapport à toutes les sciences modernes. C'est elle qui les commande, c'est elle qui les téléguide. Et progressivement, elle reprend une place dominante dès que la relation devient première. Parce que les mathématiques, c'est le domaine de la relation. Et d'une relation très pure. J'allais presque dire, c'est pas une relation de raison. Et pourtant, c'est une relation dans laquelle la pensée du mathématicien donne à l'être mathématique son réalisme, son objectivité. Dire que toute l'histoire de la philosophie occidentale, c'est des mathématiques à la métaphysique, de la métaphysique aux mathématiques, de la relation à la substance, de la substance à la relation. Je crois que il y a là quelque chose qui est très curieux et très important à saisir. Parce que ça fait comprendre comment l'intelligence humaine est une intelligence qui a de la peine à découvrir le réalisme, on le sait. Donc à découvrir la substance. Le réalisme repose sur la substance. Et comment, très vite, la relation me conduit à l'idéalisme. Le primat de la relation me conduit à l'idéalisme. Et ce primat de la relation, il est massif en mathématiques. Il est exalté en mathématiques. Les mathématiques, c'est le domaine de la relation. Il y a les mathématiques et la logique. Ça se marie assez bien ensemble. Les grands mathématiciens en sont furieux, parce qu'ils sont intuitifs. Mais la transmission mathématique, très vite, fait une espèce de lien entre logique et mathématique. En logique, qu'est-ce qui prime ? C'est la relation. La logique, c'est le domaine de la relation. Donc vous avez deux domaines de la relation. Mathématiques et logiques. Un domaine de la substance, la métaphysique, réaliste. Alors on comprend très bien que la substance se trouve dévorée par la logique et par les mathématiques. Quel est le problème? différence des deux. Et le relatif a ce privilège de nous montrer comment on passe facilement d'un réalisme à l'idéalisme. C'est la plaque tournante, la relation. Parce que la relation peut être une relation réelle et une relation de raison. À droite ou à gauche. Il y a la droite de la relation et il y a la gauche de la relation. Comme on parlera d'une dialectique de droite, d'une dialectique de gauche. Parce que justement, la relation implique les deux. Maintenant, après avoir vu cela, nous allons nous reposer le problème. Qu'est-ce que c'est que le relatif ? Nous face à ce développement extraordinaire de la relation dans notre monde d'aujourd'hui, face à la dialectique, la pensée dialectique à tout prix, on ne peut pas nier, même en théologie, si vous voulez avoir une influence et être accepté dans le monde d'aujourd'hui, pensez dialectiquement. Mais alors, vous perdez votre âme pour avoir de l'influence. Si vous voulez maintenir la vérité, comprenez qu'il faut dépasser le relatif pour découvrir la substance, pour découvrir la finalité. Le relatif ne vous fait pas découvrir la substance et ne vous fait pas découvrir la finalité. Ça vous fait découvrir votre capacité de créativité. La seule chose que vous pouvez créer, c'est la relation. Et donc, si vous cherchez uniquement ce que vous êtes capable de créer la dialectique, un jeu de relations. Ça, vous êtes capable de le faire. Alors, si vous optez pour ça, vous restez dans le relatif. Si au contraire, vous cherchez la vérité, vous devez dépasser la relation, dépasser la dialectique et redécouvrir la réalité dans toute sa force. Ça a été l'effort d'un Merleau-Ponty et d'un Heidegger. Ça, il faut le reconnaître. Le second Merleau-Ponty cherche l'être sauvage. Et Heidegger cherche l'être. Penser l'être. Parce que ils ont découvert que la pensée dialectique restait dans le relatif. Et que la pensée était antérieure à l'être. Et si la pensée est antérieure à l'être, elle cache l'être. Et l'être est prisonnier de la pensée. Et quand l'être est prisonnier de la pensée, ce n'est plus l'être. Donc, nous voyons cet effort qui n'a pas abouti. Merleau-Ponty est mort avant. Et Heidegger est resté dans penser l'être. Il espérait découvrir le primat de l'être. Il n'a jamais découvert, puisqu'il est resté dans penser l'être. C'est poignant, ça. C'est la grande tragédie de notre pensée moderne. Nous avons, nous, un privilège. C'est qu'on s'est mis à l'école d'Aristote, de Thomas d'Aquin. Et par là, on a compris qu'il fallait découvrir ce primat de l'être par une méthode analogique. L'analogie me permet de découvrir le primat de l'être. La dialectique m'empêche de découvrir le primat de l'être. Donc, nous avons essayé de découvrir la substance avant de regarder le relatif. Ayant découvert la substance avant le relatif, on peut se poser la question loyalement vous ai dit. Je ne reviens pas là-dessus, mais je vous le rappelle. Nous avons une grande expérience de la relation. Une expérience magnifique de la relation. Dans l'amitié. L'amitié est une relation personnelle. Oui, c'est une relation finalisée et substantielle. Les deux choses qui d'habitude sont cachées et rejetées par le primat du relatif, substance et finalité, nous les retrouvons si nous sommes un peu loyaux dans l'expérience de l'amitié. L'amitié me met en présence d'une personne. Je ne peux aimer d'un amour d'amitié qu'une personne. Et l'ami, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je veux saisir l'ami tel qu'il est. Donc, antérieur à ma pensée. Et tant que je n'ai pas saisi l'ami antérieur à ma pensée, je ne sais pas ce que c'est que l'amitié. Je reste enfermé dans mon monde dialectique. Et en saisissant l'ami antérieur à ma pensée, je peux le saisir comme celui qui est capable d'être aimé et de me finaliser. Et l'autre expérience, je reviendrai.